Culture Sport, le lundi soir sur Attitude, dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous, avant Culture Sport, où l'invité est de Marc ce soir, puisqu'on va recevoir Greg Black, double champion du monde d'endurance en moto. On va faire un point sur les résultats du week-end avec le traditionnel flash résultat. Au programme de ce flash, du football, du volleyball, et on va parler aussi de judo. On va commencer par le football, la Nationale 2, avec Angoulême qui se déplaçait aux Herbiers. La CFC qui est restée sur 2 victoires consécutives, une victoire en championnat contre Vierzon et puis le match de Coupe de France à Caponis. Un déplacement compliqué aux Herbiers, hein. On se rappelle des Herbiers qui avaient notamment été en finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain il y a quelques saisons. Mais malgré tout, c'est une équipe des Herbiers qui réussit plutôt bien la CFC, puisque les Angoumoisins avaient remporté les 3 derniers matchs aux Herbiers, notamment l'an dernier en Vendée, 2-0. Malheureusement, ça s'est moins bien passé vendredi soir, puisque la CFC s'est inclinée 1-0. Un match relativement serré, assez fermé, où Angoulême s'est créé plusieurs occasions en première mi-temps, notamment la frappe lointaine d'Ali Ehua, la frappe également de André Patrick Ayoubi, puis la tentative de Geoffrey Lobo. Et malheureusement, c'est les Herbiers qui ouvrent le score en début de deuxième mi-temps sur un corner à la 50e minute par Zobo, qui permet aux Herbiers de l'emporter 1-0. Dans les autres scores du week-end, Bergerac et Trélissac ont fait 0-0. Le Gol FC et Andrézieux ont fait 1-1. Chamalières a battu Bourges 2-0. Saumur et Romorantin ont fait 2-2. Nantes a été gagné à Vierzon 3-1. Moulin-Isère a gagné contre Lorient 1-0. Et le Stade Bordelais a gagné contre Angers 1-0. Les équipes du bas de tableau ont gagné. Les premiers ont perdu ou n'ont pas gagné. Donc le classement se resserre avec premier 3 équipes, Gol FC, Saumur et Angers avec 12 points. La CFC est 12e et donc premier relégable avec 6 points. Mais les Angoumoisins finalement n'ont que 3 points de retard sur le 5e, donc ça reste encore hyper serré. Malgré tout, il va falloir prendre des points. Et le problème d'Angoulême, c'est que potentiellement, s'il y a qualification la semaine prochaine en Coupe de France, le prochain match de championnat n'est programmé que fin octobre. Donc ça aurait été bien de gagner aux Herbiers pour justement pour partir en trêve entre guillemets avec un peu plus de points. En Régional 1, la réserve de la CFC recevait Fethia, un match auquel j'ai eu le plaisir d'assister. Ça a été vraiment un très beau match. Score final 1-1. C'est Fethia qui ouvre le score sur penalty par Couturier à la 37e minute. Égalisation contre son camp de Camara à la 45e minute pour la CFC. Donc un résultat 1-1, on va dire des filières différentes entre une équipe de Fethia qui se projetait rapidement vers l'avant et une équipe de la CFC coachée par David Perrier qui était plus sur une possession du ballon. Mais au final, le match n'a pas choisi son vainqueur. 1-1, ça fait 4 points au compteur pour la réserve de la CFC. Côté Cognac, il recevait Mussidan. Score final 2-2, frustrant parce que Cognac menait 2-0. Mais c'est quand même le premier point de la saison pour les hommes d'Alvin Henry qui du coup sont toujours à la recherche de leur première victoire en championnat. D'ailleurs, dans cette poule de Régional 1, c'est Mérignac-Carlac qui est en tête avec Trélissac qui compte tous les deux 6 points. La CFC donc est 5e avec 4 points et Cognac est 9e avec 1 point. En Régional 2, en poule A, le Roi s'est malheureusement incliné à domicile contre Niort-Saint-Florent. Victoire des deux Sévriens 4-1. Malheureusement, c'est la seule défaite d'ailleurs des Charentais en Régional 2. Le Roi est 11e avec 0 point. En poule B, très bon match de Merpin qui s'impose 3-0 contre Mignaloux-Beauvoir. Et enfin, Charente-Limousine s'impose également 3-0 contre Fontaine-le-Comte. Deux belles victoires. Et d'ailleurs, ça me donne l'occasion, transition Coupe de France, puisque Charente-Limousine et Merpin sont qualifiés en Coupe de France. Au niveau du tirage au sort qui a eu lieu vendredi dernier, la CFC, le week-end prochain, se déplacera du côté de Tulle, Régional 2. Tandis que Charente-Limousine recevra Échiré, donc un duel d'équipe de National 2. Et enfin, Merpin recevra Cause. Donc encore un duel de Régional 2, donc on espère voir nos trois derniers représentants charentais rallier le 6e tour. En poule D enfin, deux matchs nuls à signaler pour les Charentais, un match nul de Cireuil qui va faire nul 1-1 à Mérignac, le SAM, le Mérignac et ça. Et enfin Jarnac qui fait match nul à domicile contre Sainte 1-1. En Régional 3, en poule C, deuxième défaite malheureusement en deux matchs pour Confolan qui perd 2-0 contre Limoges Viginal. Belle victoire en revanche de Ruffec qui s'impose à Panazol, chez la réserve de Panazol, 2-0. Donc la formation de Yohan Ekieu qui fait sa première victoire en championnat et donc qui ouvre son compteur point. En poule F, la poule donc où il y a beaucoup de Charentais, Ruel a perdu 4-2 à Coulonnieux-Chamiers. Saint-Aix s'impose contre Vindel 2-1. La Roche-Rivière a profité du forfait de Thénon Limera pour s'imposer 3-0. Et puis hier, deux bons résultats pour les Charentais, puisque Soyaux s'est imposé à Verneuil-sur-Vienne 2-1. Et puis Moyen a battu Saint-Junien 3-1. Enfin, en poule G, dernier résultat de Ligue pour les Charentais. L'Alliance 3B d'Adnan El Archi a gagné contre Rive Droite 33, donc une équipe à côté de Bordeaux, 3-1. Barbezieux est reçu donc 2 sur 2, 6 points au compteur. Début de saison parfait pour Barbezieux en Régional 3. En D1, je vais donner les scores des 6 rencontres. Moutier et Champigny font. Donc Moutier s'impose devant Champigny 2-0. Roulé bat les Portugais 2-0. Brie et les Sacs font 3 partout. Basso s'impose à Merpin 4-1. La Couronne s'incline à domicile contre Saint-Michel 10-2. Et enfin, l'Alliance 3B et le Roi font 2 partout. Au classement, Saint-Michel est premier avec 6 points. C'est la seule équipe à avoir gagné ces deux matchs. Et malheureusement, dans l'autre partie du tableau, la Couronne est à 0 points. C'est la seule équipe également à s'être inclinée à 2 reprises. En D2, en poule A, Ruffec et Aigre font match nul 2 partout. Belherbe a gagné à Saint-Aix 2-1. C'est un match qui s'est joué sur le terrain synthétique de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine à Puymoyen. Chasseneuil et Mornac font 1 partout. Verdy s'impose 1-0 contre la Roche-Rivière. Montbron et Charente-Limousine font 3 partout. Et enfin, la victoire de Sireuil 4-2 à Mansle. En poule B, Sud-Charente s'incline à domicile contre Jarnac 2-1. Grande-Champagne va gagner à Ruel 2-0. Nersac s'impose contre Châteauneuf 3-1. Champigny et Saint-Séverin font 2 partout. Saint-Brice s'impose à Montmoreau 2-0. Et le carton du week-end, qui fera plaisir à Steph, puisque Steph aime beaucoup les cartons, Linard s'est imposé contre Chazelle 11-0. Linard qui avait déjà gagné 9-3. Donc ça fait 20 buts en 2 matchs pour les hommes de Ludo Nanglard. En foot féminin, la FG Soyaux s'est déplacé à Fleury après leur belle victoire contre Rodez. C'était l'occasion pour Soyaux de faire son troisième déplacement déjà de la saison. Et bien ça fait un point de plus au compteur pour les filles de Stéphane Guillaume qui font un partout du côté de Fleury. Soyaux concède l'ouverture du score en première mi-temps, mais İpek Kaya, l'international turc, égalise pour la FG. Et donc Soyaux qui ramène un bon point d'Île-de-France, un partout. Les autres résultats en 2D1, Montpellier et Bordeaux font 0-0. Donc Fleury et Soyaux font un partout. Paris FC s'impose à Dijon 2-0. Reims bat Guingamp 3-0. Lyon bat Rodez 2-0. Et l'énorme surprise du week-end, c'est Le Havre qui tient en échec le Paris Saint-Germain de partout. Au classement, Lyon est premier avec 12 points. Deuxième, Paris Saint-Germain 10 points. Avec troisième avec le Paris FC 10 points également. Soyaux est huitième avec 4 points en 4 matchs. Ce qu'à souligner, c'est que Soyaux n'a fait qu'un seul match à domicile pour 3 déplacements. Donc c'est vraiment un super départ. Déjà 4 points d'avance sur la zone rouge. Et puis, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que Soyaux va recevoir dans 15 jours Le Havre pour son prochain match. Donc on espère que les filles de Soyaux continueront sur leur belle lancée. En basketball, en National 3 féminine, déplacement compliqué pour la Couronne Basket qui se déplaçait au Poinçonnet. Donc c'est un match qui s'est disputé à Châteauroux. Défaite malheureusement du LCB 71-39. Le Poinçonnet donc est premier au classement avec 3 victoires en 3 matchs. La Couronne est 11e avec une victoire en 3 matchs. Mais au final, les Couronnes sont à égalité avec le 6e. Ça reste hyper serré, donc à voir sur les prochaines journées, sachant que la semaine prochaine, la Couronne va recevoir Boigny, qui compte également une seule victoire, donc un match important pour les Couronnaises. On va parler de volleyball, une fois n'est pas coutume, avec la reprise du championnat de pré-national. On est donc au plus haut niveau régional, avec le Cosmic. Qu'est-ce que le Cosmic? En fait, c'est l'association entre les clubs de la Couronne, donc le COC, et Saint-Michel, donc ça a donné le Cosmic. Donc le Cosmic démarrait son championnat avec un déplacement à Brive et c'est une victoire du Cosmic 3-1 à Brive, donc c'est plutôt positif. Donc le Cosmic est dans une poule à 6 équipes, donc avec Villeneuve-sur-Lot, Floirac, Talence, Brive et Illiac. On verra ce qu'ils vont faire, on va les suivre durant cette saison. En tout cas, ça démarre très positivement. Enfin, dernier mot de judo avec Julie Pierret et Morgan Artuis qui étaient de Celje en Slovénie pour une European Cup. 2 médailles pour les couronnaises, puisque Morgan Artuis termine 3e en moins de 57 kilos. Elle bat dans le détail la Slovène Tomch, ensuite elle bat l'Allemande Goebel. Elle se retrouve en demi-finale, elle perd malheureusement contre la Polonaise Vatorek qui remporte la compétition. Et après elle se retrouve en repêchage, elle rebat une Polonaise. Donc du coup, troisième place pour Morgan Artuis en moins de 57 kilos. En moins de 78 kilos, Julie Pierret, double championne de France, la valeur sûre du La Couronne Grand Angoulême Judo, termine deuxième, elle s'incline en finale. Elle bat au premier tour la Hongroise Sadji. Elle bat Ensuite, en demi-finale, la Serbe Zvicic, et elle perd malheureusement en finale contre Rafaela Igel. C'était vraiment la finale attendue, hein, entre Igel et Pierret, qui étaient sur le papier en tout cas les deux meilleurs. Et donc Julie Pierret termine deuxième à Célier. D'ailleurs, on en profite pour saluer et pour féliciter Bertrand Gamacurta, qui a réussi sa certification d'arbitre continental. Donc Bertrand est devenu arbitre continental, donc on le félicite. Et rendez-vous pour les couronnes dans 15 jours du côté de Malaga en Espagne pour une nouvelle European Cup. Tout de suite, l'interview de Greg Black, avec qui on va revenir donc sur la saison en EWC. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau flash résultat où on parlera notamment de Coupe de France de football. Au revoir.
Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez Attitude, votre radio 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 à Ruffec, mais aussi sur www.attitudefm.com et en podcast rubrique sport. Bienvenue dans Culture Sport, votre émission hebdomadaire. Chaque lundi 19h-20h30, nous accueillons Greg Black, ex-champion du monde, enfin multi-champion du monde de moto-endurance. Greg, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue.
Bonjour. Merci, bonjour.
On te remercie vraiment pour un champion du monde d'être disponible.
Merci, c'est gentil, c'est avec plaisir.
Parfait. Christian, je te laisse le soin de lancer la première question ou de faire peut-être un premier retour sur la saison.
Oui, bon, on va globalement parler de la saison de WC avec Greg. Donc, une saison qui a comporté 4 courses, des courses de 24 heures et une course de 8 heures. Mais avant d'aborder toi, Greg, la première question, c'est comment tu te sens? La saison est terminée là. Comment tu te sens et quelles vont être tes prochaines occupations dans les semaines à venir?
Ça va très bien. Je me sens plutôt bien. Une saison qui s'est pas terminée comme on le souhaitait, mais en tout cas, physiquement, je me sens bien, mentalement aussi. Et puis, là, on est en train de mettre en place toutes les choses pour la saison 2023. Donc, ça représente quand même pas mal de travail de tous les côtés pour essayer de mettre en place les choses. Et puis après, il reste encore quelques activités en fin d'année. Une course de ligue où j'encadre deux jeunes pilotes de mon motoclub. J'ai quelques événements à faire, quelques roulages aussi en Espagne et des dépassements. Donc, bon, l'année va être quand même bien chargée jusqu'au mois de décembre.
Alors, on t'avait reçu après les 24 heures du Mans. Que vous aviez remporté de belles luttes. On va rapidement revenir sur cette course. Donc c'était la course d'ouverture du championnat du monde d'endurance. On va dire que vous étiez donc double tenant du titre. L'objectif c'était d'aller chercher un troisième titre mondial avec un trio de pilotes qui n'avait pas changé puisque tu étais avec toujours Sylvain Guintoli et Xavier Siméon. Des 24 heures du monde qui se sont passées comme dans un rêve. Vous avez remporté la course.
Ouais, une course, je dirais, parfaite pour nous. On a réussi à faire à la deuxième place de qualification et après à marquer les 10 points à chaque intermédiaire. Donc finalement, on a fini avec 64 points là-bas. C'est-à-dire quasiment le maximum de points et on était vraiment satisfait de la course. Une course parfaite pour nous. On a pu imposer notre rythme et montrer notre efficacité une année supplémentaire. Donc ça faisait plaisir de pouvoir réaliser une belle épreuve aux 24 heures du Mans à côté du siège du CERT et de faire justement une seconde victoire d'affilée au Mans. Donc le championnat était bien lancé pour l'année 2022.
Oui, parce que non seulement le CERT est venu à domicile, mais remporter les 24 heures du Mans, ça reste quand même l'une des courses mythiques, que ce soit en auto ou en moto. Donc, même si tu l'avais déjà remporté, ça reste, c'est pas anodin de remporter une telle course.
Effectivement, ça montre à quel point, justement, avec notre dernière course de l'année, à quel point les victoires, on peut les savourer. Et il faut pas que ça devienne une habitude parce que les victoires sont très dures à avoir. Et donc, faut toujours apprécier ces victoires sur de telles courses mythiques comme les 24 heures du Mans qui sont mondialement connues. Et ça reste une épreuve extrêmement difficile physiquement, mentalement et pour toute l'équipe à gagner. Donc très, très content de pouvoir réeffectuer une nouvelle victoire là-bas.
D'ailleurs, à l'issue de cette course, c'est une course quand même qui a fait beaucoup de dégâts, puisque, mis à part vous et le Yart, les autres favoris, bah, que sont par exemple la Honda ou la Ducati, ou la BMW, c'est des motos qui ont connu des accidents, donc forcément, la conquête d'un troisième titre partait idéalement pour vous.
Ouais, ça partait parfaitement bien. On a réussi à faire une course solide. Les concurrents ont eu quelques soucis. Maintenant, ça reste la chose la plus difficile. Aujourd'hui, on sait qu'on est à 5 équipes officielles à être très performants en piste. Et la chose difficile est d'avoir une moto fiable, d'être constant, de rouler très vite, sans faire d'erreur en doublant la concurrence. Et sur surtout réussir à finir la course. Et aujourd'hui, c'est la chose qui est la plus difficile. Donc voilà, pour nous, ça a été une course parfaite.
Deuxième manche. Donc on est au mois de juin. On revient en Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps, un circuit hyper connu par rapport à la Formule 1. Mais c'est vrai que vous, les motos d'endurance, vous n'avez pas posé vos roues depuis 20 ans. Qu'est-ce que ça t'a fait du coup de rouler sur un tel circuit de légende?
Bah, ça fait plaisir de rouler sur un si beau tracé. C'est vrai que c'est un tracé magnifique, un grand circuit avec des beaux virages et une belle piste. Je connaissais pas du tout. J'ai pu y aller quelques semaines auparavant avec ma moto personnelle pour faire la découverte de la piste et après avec les conseils de mon coéquipier Xavier Siméon qui est belge, qui connaissait très bien la piste, bah, rapidement l'apprendre et la dompter et vraiment un super joli tracé. Content de pouvoir faire les 24 heures de Spa et donc pour nous ça a été une épreuve. On a terminé une quatrième place, mais une bonne quatrième place après les déboires qu'on a eu, puisque aux qualifications on était très rapide, on était vraiment performant comme on était 24 heures du Mans. Et du coup, en course, on était également bien placé, on était en tête de la course, donc très content du début de course. Malheureusement, on a une panne mécanique, une panne de boîte de vitesse, ce qui nous a contraint à rentrer au stand et à passer plus de 20 minutes, je crois 27 minutes au stand. Donc les chances de la victoire étaient vraiment diminuées, mais l'objectif était clair, c'était de repartir et de viser le maximum de points possible. Et finalement, on est remonté à la quatrième place. Au petit matin, il y a eu beaucoup de dégâts aussi de la concurrence avec des casses moteurs. Donc il y a eu une chute un peu générale dans laquelle je faisais partie, c'est dans un virage. Mais finalement, ça nous a pas énormément changé de place puisqu'on est, on a réussi à remonter une autre fois à quatrième place. J'ai réussi à ramener la moto au stand et au final, on termine la course en quatrième place, ce qui était pour nous un bon résultat au vu des 50 minutes au total passées au stand. Et surtout, on a pu accroître notre avance au championnat. Donc c'était pour nous. Une épreuve en demi-teinte puisqu'on savait qu'on pouvait la gagner, mais après tout, avec les déboires des autres, on a quand même réussi à marquer des points importants pour le championnat et, comme je disais, à accroître notre avance par rapport au monde.
Oui, finalement, c'était une course en trois temps. La première, vous étiez à la lutte en tête de la course. Il y a eu après cette belle remontée, après le gros incident mécanique, et puis on termine la course par une longue interruption parce qu'il y avait eu une moto malheureusement qui avait déversé de l'huile ou du liquide, je sais pas trop ce que c'était. Il y a eu une longue interruption et puis ça se termine sur une course sprint avec Xavier Siméon qui est au combat avec la Honda pour la troisième place. Comment on vit justement cette fin de course où il y a des voitures de sécurité, une longue interruption et puis il faut repartir avec l'un des concurrents directs au classement du championnat du monde pour finalement une course qui va durer quelques minutes seulement?
Ouais, en fait, tout simplement, la course effectivement a été neutralisée suite à une casse moteur sur la piste et le pilote a fait tout le tour de la piste, donc il y avait énormément d'huile. On a eu un déluge, donc l'huile plus de l'eau, c'est jamais très favorable au grip des pneumatiques sur la piste, donc ils ont décidé de neutraliser la course. Ça a duré très longtemps, le temps que les machines nettoient la piste. Et au final, la course devait finir sous safety car et l'organisation a considéré que c'était assez sécurisé pour finir la course avec un safety car retiré à une dizaine de minutes de la fin, ce qui a été chose faite. Mais donc Xavier, lui, de son côté, a eu l'ordre du team de respecter l'ordre de marche, c'est-à-dire de pas prendre de risques. Et c'est ce qu'il a fait finalement. Il a suivi Generea, qui était sur la Honda TSR. Et pour nous, c'était pas important de se battre pour cette course-là. Donc Xavier a fait les choses demandées, c'est-à-dire il a attendu. La Honda TSR s'est un peu excitée toute seule en essayant d'attaquer. D'ailleurs, il a failli partir à la faute. C'est pour cette raison-là que Xavier est repassé devant. Mais sinon, Xavier faisait que suivre. Et pour nous, c'était pas important de marquer les. Il y avait que 4 points de différence entre la 4e et 3e place. Donc finalement, pour nous, c'était pas si important de se battre et de prendre des risques pour finir 3e.
Oui, donc, tout à fait. Et pour plus, sur l'ensemble du week-end, vous marquez 43 points alors qu'eux, ils en marquent 42. Donc au final.
Ça, tout à fait, exactement.
Ça valait pas forcément le coup de tout perdre pour 2 ou 3 points d'écart. Je rappelle donc que c'est donc la BMW qui remporte ses 24 heures de Spa-Francorchamps devant la Tati Team et donc la Honda. Vous terminez donc 4e de cette course et on arrive sur la course suivante au mois d'août, du côté de Suzuka au Japon, une épreuve qui avait été reportée je crois sur les dernières saisons à cause du Covid, et j'ai envie de dire que c'est une épreuve un peu hors série puisqu'on retrouve des motos qui ne font pas les autres étapes, et par contre il y a des teams, notamment les teams françaises qui ne font pas le déplacement au Japon, donc c'est forcément une épreuve toute particulière celle-là.
Oui, bien sûr, c'est une épreuve qui est mondialement connue aussi. Vita Suzuka, c'est une course mythique. Maintenant, faut pas oublier que là-bas, ça reste le pays des constructeurs. Donc, c'est très important pour eux, pour tous les marchés asiatiques, de mettre des motos officielles, des motos vraiment préparées pour là-bas. Ils passent énormément de temps à s'entraîner sur la piste, à faire des dizaines et des dizaines de journées de tests juste pour cette course-là, développer les motos spécialement pour ces courses-là, mais également prendre des pilotes de différents championnats qui passent énormément de temps là-bas à rouler pour être performant sur cette piste. Donc pour nous cette année c'était un peu une première pour moi de rouler là-bas avec la moto de chez Yoshimura. Donc notre team certes Yoshimura, mais d'habitude on roule avec la moto vraiment du certe européenne, et là on a l'occasion de rouler avec notre moto qu'on utilise en championnat du monde, mais avec des pneus Bridgestone. Et on sait que là-bas c'est un réel avantage de rouler avec ces pneus, parce que les Bridgestone c'est un manufacturier japonais, donc on sait bien qu'ils fonctionnent très bien là-bas, ils sont développés là-bas. Et effectivement, c'est une course spéciale parce qu'il y a des nouvelles motos, très peu de motos du championnat du monde complet, que les motos, on va dire, officielles, parce que c'est surtout maintenant avec le prix du transport, c'est très onéreux d'y aller. Oui. C'est à peu près 30 euros le kilo pour transporter, sachant que les teams, ils ont généralement à peu près 2 tonnes à amener. Donc, ça coûte énormément cher pour finalement très peu de chance pour beaucoup de teams permanents de marquer un seul point, parce qu'il y a énormément de teams japonais qui roulent. Donc, c'est une épreuve qui fait partie du championnat, mais qui est plutôt faite de teams qui font pas partie du championnat. Alors, c'est vrai que c'est un peu particulier, mais cette année, effectivement, on a eu la chance de pouvoir presque rouler à armes égales pour se battre pour des points importants là-bas.
Et en plus, il a l'air de votre côté, je crois qu'il y a un de tes collègues qui est forfait à cause du Covid. Vous prenez part à la course qu'à deux, toi et le quatrième pilote de l'équipe, donc le pilote japonais dont tu vas me rappeler le nom. J'avoue qu'il y a
Yatsuki Watanabe. Et ouais. Donc effectivement, Xavier Siméon était déclaré positif au Covid. Donc pour lui, c'était impossible de se rendre au Japon vu les mesures de sécurité sanitaire qu'il y avait à ce moment-là pour aller au Japon.
Et il y a les chutes, il me semble, c'est ça.
Ouais, Sylvain Gatoï a fait une chute le mardi de la course et s'est cassé le pouce. Donc effectivement, on a dû faire la course à deux. On n'a pas eu forcément de la chance aux qualifications, puisque aujourd'hui aux qualifications, il y a deux chronos sur trois qui sont retenus, les trois pilotes. Donc tous les autres teams ont fait leurs deux séances sur le sec. Et nous, vu qu'on était que deux pilotes, moi j'ai fait ma séance sur sec.
Tous vos chronos ont compté au final.
C'est ça. Et donc, mon coéquipier, lui, a roulé sous la pluie. Donc, automatiquement, ça fait qu'au cumul des chronos, on est parti 22e sur la grille de départ. Et donc, on passe assez loin, même si on savait qu'on avait le potentiel de finir aux alentours de la 6e, 5e ou 4e place au mieux. Sachant qu'à deux pilotes, là-bas, c'est très physique. Il fait à peu près 40 degrés avec 80% d'humidité. Donc, c'est une course qui est très, très physique. Et d'autant plus la piste qui favorise à avoir beaucoup d'essoufflement sur la piste et un manque d'oxygène, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lignes droites. Donc, on sait qu'à deux, c'est très compliqué. Et l'objectif était clair, c'est de marquer le maximum de points possible et de finir le plus près possible de nos concurrents principaux, qui étaient la Yart et puis la Honda TSR. Et au final, j'ai pris le départ de la course, j'ai rapidement pu remonter à la 4e place. Et finalement, après un safety car, passer en tête de la course pendant quelques tours. Et puis au final, me situer rapidement à la 4e place pour y rester jusqu'à la fin de la course. En bagarre avec la Yart et qui ont commis une erreur, et finalement on termine cette course à une très très belle troisième place. Oui. À deux pilotes réussir à finir cette course à deuxième place, c'est un résultat incroyable pour ça arrive très rarement que les pilotes européens finissent sur le podium là-bas. Les pilotes du championnat EWC finissent sur le podium, donc c'est une grande fierté pour moi de pouvoir réussir à faire cet exploit aux côtés de Kazuki Watanabe et puis avec mon équipe. Donc très fier de ce résultat, et puis encore une fois on a réussi à accroître notre avance au championnat, à monter de 16 points à 23 points d'avance suite à ce résultat, puisque la Honda TSR finit à la 7e place et la Yart à la 9e. Donc finalement, un résultat d'autant plus encourageant pour le championnat.
Oui, le contrat était rempli finalement de terminer dans la Yart et devant la Honda.
Exactement, le contrat était bien, même plus que rempli.
D'ailleurs, physiquement, est-ce que c'est plus éprouvant de faire une épreuve de 8 heures à 2 ou de faire une épreuve de 24 heures à 3? Parce que c'est vrai que, par exemple, le circuit du Mans est un circuit assez court, alors que Suzuka, comme tu le disais, c'est un circuit qui comporte beaucoup de virages. Est-ce que physiquement, tu, malgré le fait qu'il y ait forcément 3 fois moins d'heures, parce qu'on est entre guillemets que sur une course de 8 heures, est-ce que physiquement ça a été compliqué de n'avoir que ton coéquipier japonais à tes côtés?
Bon, effectivement, c'est complètement différent. C'est difficile de comparer un circuit qui soit long ou court. Finalement, c'est la même chose, ce qui fait que on fait juste plus de tours sur un circuit plus court et moins de tours parce que sur un circuit plus long.
C'est vrai que quand c'est 24 heures, que ce soit que le circuit fasse 2 km ou qu'il en fasse 15.
C'est ça, exactement. Après, par contre, ce qui peut changer, c'est la construction du circuit, la façon dont il est fait. Et effectivement, Le Mans, il y a quelques lignes droites avec des gros freinages. Que Suzuka, c'est beaucoup de virages qui s'enchaînent, donc beaucoup de changements d'angle. Donc effectivement, on a beaucoup moins de temps pour se reposer et le cardio finalement reste assez élevé. Et ce qui est particulièrement difficile là-bas, c'est la température et le manque d'oxygène qui fait que on est souvent en manque d'air et donc ça devient d'autant plus difficile. Donc je dirais que un relais est équivalent quasiment à deux relais au Mans. Donc c'est beaucoup plus dur. Par contre, du coup, c'est beaucoup moins long. Alors, l'intensité pendant le relais est beaucoup plus forte, mais il y en a que trois. Enfin, là, du coup, on en a fait un peu plus, mais généralement, il y en a que trois à faire. Là, on en a fait 4,5 chacun. Mais au Mans, c'est beaucoup plus dur sur la distance, sur la longueur. C'est comme une courte sprint où on va se donner beaucoup plus sur une heure, ou un marathon où là, ça va être beaucoup plus long et l'effort va être différent. Tout à fait.
C'est un peu comme sur une étape du Tour de France où on est sur une étape en ligne de 180 km et un prologue de 10 km au final.
Exactement.
Est-ce que le regard du public japonais a changé par rapport à l'écurie, sachant que avant vous étiez Suzuki, mais c'était le CERT, donc c'était une écurie française. C'est vrai que là d'avoir le drapeau du Japon sur ton cuir, est-ce que ça a changé un peu l'image ou le soutien du public japonais à votre égard?
Automatiquement, les publics japonais soutiennent l'équipe Yoshimura depuis de nombreuses années. C'est une équipe qui est mythiquement et mondialement connue, et donc l'association entre Yoshimura et le CERT automatiquement amène le public à un meilleur suivi, que ce soit du côté du CERT ou du côté du Yoshimura. Ça apporte plus de choses des deux côtés.
On arrive à ce mois d'août, donc vous êtes toujours en tête du championnat, comme tu le disais, l'avance se creuse, donc jusque là tout va bien. Et puis à ce dernier week-end du mois de septembre sur le circuit du Castellet pour le Bol d'Or, une épreuve qui vous a plutôt bien réussi dans le passé en général, et malheureusement c'est la dernière course, une course de 24 heures, donc beaucoup de points à aller chercher, et il y a cette casse moteur au bout d'un peu plus d'une heure de course qui finalement met un terme à tous vos espoirs pratiquement de titre.
Ouais, tout à fait, c'était une épreuve, donc la finale au Bol d'Or qui se fait généralement, la finale se fait souvent à Suzuka ou sur l'épreuve de 8 heures comme l'année dernière à Most.
Oui.
Mais cette année effectivement ils ont décidé de la faire au Bol d'Or.
Est-ce que juste avant que tu continues, est-ce que les points sont doublés sur la dernière manche même si c'est une course de 24 heures?
Alors justement, ce que j'allais expliquer, c'est que l'année dernière, donc la course s'est faite sur une course de 8 heures en fin de saison, et là vu que la course de Mandalika était annulée, la course qui devait se faire elle est annulée, donc du coup la finale c'était le Bol d'Or, et donc effectivement les points sont multipliés par 1,5 les points de l'arrivée, c'est-à-dire qu'aux qualifications il y a 5 points à marquer. Oui. Nous on a fait la troisième qualification, donc on a marqué 3 points, donc on a pu accroître notamment une fois de plus de 23 points à un point supplémentaire, à 24 points pour la course. Donc, on avait également rempli notre objectif pendant les qualifications. Et ensuite, pendant la course, on a 10 points intermédiaires à 8 heures de course, 10 points à 16 heures. Donc, ça part du premier au dixième, hein. Donc, ça va 19, 8, etc. jusqu'à la dixième place, à 8 heures et à 16 heures. Et ensuite, à l'arrivée, généralement, il y a 40 points. Et ces 40 points-là, uniquement ces points-là, sont multipliés par 1,5. Donc, au lieu d'avoir 40 points à l'arrivée, on avait 60 points.
60 points.
Donc, 60 ouais. plus 10 plus 10 plus 5 des qualifications. Donc, on avait 85 points mis en jeu. Donc, 20 points supplémentaires par rapport à une course de 24 heures habituelle. Par exemple, au Mans, on a marqué les 65 points possibles. Là, du coup, on avait marqué 3 points aux qualifications. On a déjà fait une bonne opération.
Oui.
En fait, il nous suffisait de marquer des points et de tenir nos concurrents à portée de main, même à quelques places, et ça suffisait pour gagner. Donc l'objectif était clair, même si on était, c'est surtout un circuit qui favorise notre moto, le style de notre moto, parce que c'est un circuit avec un tracé avec des virages rapides, fluides, où il faut beaucoup sur le train avant, qui favorise notre Suzuki. Et surtout un bon
moteur. Vous avez gagné notamment le bol d'or l'an passé, si je me trompe
ouais,
pas.
On a gagné deux fois d'affilée le bol d'or. Ouais.
Ouais.
Tout à fait. Donc on savait qu'on avait on a gagné 8 tours d'avance, 18 tours d'avance l'année dernière. Donc du coup on savait qu'on avait réellement un bon potentiel pour gagner la course, du fait de notre vitesse plus de la fiabilité de la moto. Et là on a prouvé qu'on était rapide en piste. Au départ du coup je suis parti et puis on a joué devant, mais je suis resté très très calme pour ne pas rentrer dans le jeu des autres, c'est-à-dire maîtriser la course et uniquement rester avec eux, c'est ce qu'il suffisait de faire. Et on était assez serein, peut-être trop serein, parce qu'on savait que notre moto c'était normalement la plus fiable du plateau, même si on peut avoir tous avoir des problèmes. Mais on l'a prouvé cette fois-ci, puisque au bout d'une heure de course, on a une casse moteur qui avec mon coéquipier Kazuki qui roulait sur la moto à une heure et quelques de course. Donc il nous a contraint d'abandonner finalement cette course, alors que comme je disais une fois de plus, c'était aux autres d'avoir la pression, aux autres d'attaquer, et nous on avait simplement à suivre et à les garder en vue. Et donc c'était presque une course facile pour nous, parce qu'il fallait finalement que la finir. Et on prouve bien que l'endurance, ça reste de l'endurance. Il faut être fort en piste, en vitesse, mais aussi il faut être fort dans les stands, ce qu'on a été, mais aussi il faut avoir une moto très fiable. Normalement c'est notre cas, mais même une moto très fiable peut avoir des problèmes, et on l'a prouvé que voilà, ça peut arriver à tout le monde. Donc on a dû abandonner cette course, donc on a marqué 0 points sur cette épreuve, et la Honda TSR elle a fini à la 4e place et a marqué suffisamment de points pour être pour les champions du monde. Mais d'un autre côté, faut pas oublier que finalement là, tout le monde a eu ses déboires, puisque la BMW abandonne aussi, la Yart aussi, la Tati aussi, oui. Et donc tous nos concurrents principaux ont abandonné à part la TSR. Donc finalement, on finit vice-champion du monde, c'est une belle place quand même que les gens auraient tous espéré d'avoir, être vice-champion du monde un jour. Donc nous on l'a, mais c'est vrai que quand on est en haut de l'affiche, quand on est premier, on est double champion du monde, c'est un endroit où aller, c'est en arrière. Et donc, finalement, ça peut arriver de descendre d'une place. Mais ça nous pousse pour remonter d'une place pour la suite. Ça donne d'autant plus de motivation. Et surtout, on se rend compte que l'endurance reste très difficile. Aujourd'hui, avec le niveau de concurrence et le niveau des motos, pneumatiques, pilotes et team, le niveau il est très élevé. On ne peut absolument rien lâcher. On ne peut plus se permettre d'avoir des motos qui sont un peu moins rapides. On ne peut plus se permettre ces choses-là. Donc, tout est poussé au maximum. Mais malheureusement, avec ça, on peut avoir des problèmes de fiabilité ou des chutes en course. Et ça prouve bien qu'on est toujours à la limite. Et le championnat reste un championnat très relevé où rien n'est jamais joué. Et il faut pas espérer gagner ou avant que le drapeau soit tombé.
Oui, puis malheureusement, c'était votre premier abandon. Et j'ai envie de dire presque que c'est l'abandon qui tombe le plus mal au plus mauvais moment.
Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on aurait pu être 4 fois champion du monde, parce que finalement là, il nous suffit de finir la course pour être champion du monde, donc ça aurait fait un 3e titre. Mais il faut pas oublier qu'en 2018, à la finale de Suzuka au Japon, on était également en tête du championnat. Il nous suffisait de finir la course à la 9e place, on était 6e en course, et à 7 minutes de la fin, on a eu aussi une casse moteur. Donc on perd 2 titres sur casse moteur à la dernière course, aux 2 finales. Et sinon, on aurait eu en performance pure 4 titres de champion du monde. Maintenant, on n'a vraiment pas de chance de ce côté-là, parce que on a un nombre de kilomètres limité sur les moteurs, et on surkilomètre des moteurs plusieurs fois pendant les essais, pendant les roulages. Et depuis 2017, on n'a cassé que 2 moteurs, et les 2 moteurs dans les plus mauvais moments, c'est-à-dire lors des 2 finales de titres qu'on jouait. Donc, bon, il faut se dire que on a réussi à prouver nos performances, mais les 2 moteurs qu'on a pu casser depuis 5 ans sont tombés au plus mauvais moment.
Ouais, c'est un peu rageant de faire ce constat. Et en plus, tu as été très sport vis-à-vis de tes concurrents, où tu m'as dit, lorsqu'on s'est parlé au téléphone il y a quelques jours, que finalement, ils le méritaient aussi. Donc, bravo pour ta sportivité.
Ouais, non, mais bien sûr. Après, on est, comme je disais, on est 5 équipes officielles à vraiment pouvoir gagner aujourd'hui en endurance. Je dirais principalement donc la moto du Yart, la BMW, la Honda TSR, nous-mêmes, la Kawasaki numéro 11 qu'il faut jamais oublier, même si cette année elle était un tout petit peu moins rapide, mais en course ils sont toujours présents. Et après les outsiders qui sont toujours là comme la Tati, etc. Mais principalement c'est ces 5 teams là qui sont vraiment présents. Et aujourd'hui il faut dire que en chrono pur, tous les pilotes ont été très rapides, le rythme était vraiment vraiment élevé cette année, le niveau était vraiment incroyable. Donc tout le monde avait le mérite de gagner le titre. Maintenant, c'était au meilleur package de réussir à finir les courses intelligemment Et aujourd'hui, il faut dire que la Honda TSR ont réussi à sortir la épingle du jeu et à gagner le titre. Et donc, tout le mérite est pour eux. Maintenant, c'est un coup eux, un coup nous. On va essayer de tout faire pour récupérer le numéro 1 sur une moto l'année prochaine.
Et c'est vrai qu'en plus, le Bol d'Or, c'est une course qui a rebattu les cartes puisque ça a permis notamment à la team Viltice Eagle Experience de se replacer finalement troisième du championnat du monde, alors que c'est vrai que sur les trois premières courses, ils étaient un peu en retrait. Et puis ça a permis aussi à l'écurie polonaise, la Wojcik, de finir cinquième du mondial. Donc c'est vrai que c'est sur quatre courses, mais c'est vrai que la dernière course, c'est une course à ne pas rater.
Ouais, c'est ça, c'est une course la plus importante, donc il fallait vraiment pas la rater. Maintenant, on voit que ce qui compte en endurance, c'est de finir. Et quand on finit les courses, on marque des points, et c'est comme ça qu'on gagne les championnats. Il faut pas forcément être les plus performants en piste pour gagner les championnats. On l'a prouvé nous la première année en ayant le titre en 2020. On a gagné une course, mais le reste, on a fini troisième et quatrième à toutes les courses, et on gagne le titre. Donc, aujourd'hui, on prouve bien que la Honda TSR, ils ont fini, si je me souviens bien, ils ont fait une troisième place au Mans.
Alors troisième au Mans,
septième,
dixième et quatrième. Donc au final, ils ont jamais fait premier et deuxième.
Et non, ils n'ont jamais gagné une course, ni même fini deuxième. Ils ont uniquement un peu réussi à sauver les meubles, à avoir leurs problèmes, leurs petits soucis, mais tout de même à finir les courses. Et donc, ils ont fini, par contre, eux, ils ont fini les quatre courses. Et c'est ce qui reste la priorité en endurance. Donc, on le prouve bien aujourd'hui. C'est pas forcément le but d'être le plus rapide en piste, mais de réussir à le meilleur package pour finir les courses. Et donc, voilà, c'est une leçon à apprendre. On sait tous, mais ça, c'est une petite piqûre de rappel.
Si on tire le bilan, du coup, de cette saison 2022, Greg, il est malgré tout positif, ce bilan?
Pour moi, personnellement, il est très positif. Je pense que au niveau de mon équipe, j'ai réussi à faire peut-être la meilleure année de ma carrière, c'est-à-dire à être très performant lors des qualifications sur chaque course, à faire de très bons chronos, si nous avons toujours bien placé sur la grille de départ. En course, j'ai pris tous les départs de chaque course et j'ai réussi à faire des bons départs à chaque course avec des bonnes performances, des bonnes moyennes, des bons chronos et des bonnes bagarres en course sans tomber, sans faire une seule chute de l'année de ma faute, à part c'est la Spa où on est tombé sur l'huile, mais ça c'est différent. Mais bien sûr, de pouvoir performer et d'être solide et de prouver ma force en endurance. Et puis également la construction avec l'équipe, faire une belle année avec mon équipe du CERT Yoshimura Motul, et puis on a vraiment construit de belles choses. Maintenant, le résultat reflète pas forcément tout le travail qu'on a accompli et nos réelles performances, parce qu'on a vraiment progressé cette année, et je pense que tout mis bout à bout, nos performances actuelles plus notre expérience, on prouve qu'on reste dans, je pense, la meilleure équipe globale pour gagner un titre.
C'est vrai que le bol d'or, 50 points d'un côté et seulement 3 de l'autre, ça fait toute la différence par rapport à toute l'avance que vous avez grignoté sur chaque course auparavant. J'avais lu dans un article sur internet que Suzuki allait arrêter l'endurance. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça?
Ouais, tout simplement, aujourd'hui, Suzuki, ils ont un département course SMC. Donc, c'est la partie racing qui principalement fait le MotoGP. Et donc, cette partie, par les décisionnaires de Suzuki, a été arrêtée. Donc, il n'y aura plus de MotoGP, comme tout le monde le sait. Mais dans cette partie-là, effectivement, il y a un budget qui va à l'endurance. Et donc, vu que cette partie de compétition ferme, automatiquement, le budget qui venait de cette partie-là s'arrête. Maintenant, le but de Suzuki est tout de même de perdurer en endurance. Ça crée une énorme communication, une belle image pour les motos Suzuki en globalité, pour les motos de route et pour tous les fans de motos en général. Et donc, c'est important pour Suzuki de rester en endurance, pour Yoshimura, mais également pour le CERT. Donc là, en ce moment, ils sont en discussion au sein de Suzuki Japon, avec Suzuki France, avec l'Europe, avec Yoshimura et le CERT et diverses partenaires pour que l'aventure continue. On est assez optimiste pour continuer et que tout se fasse de la même manière. Maintenant, c'est des grosses entreprises, c'est des gros budgets, même si notre budget il est sûrement 10 fois inférieur, même plus que ça par rapport au MotoGP, ça reste des budgets qui sont importants pour faire de la course. Et aujourd'hui, une société doit avoir des retombées importantes pour mettre des budgets dans la course, et c'est toujours des discussions qui sont en cours au sein de Suzuki, et je suis assez assez optimiste que ça puisse continuer, perdurer. Maintenant, il faut attendre encore un petit peu, un mois ou deux, pour savoir principalement si la moto du CERT sera sur la grille de départ ou pas pour l'année prochaine. Mais je suis assez optimiste.
J'avais écouté donc ton interview sur Eurosport peu de temps avant l'arrivée. Donc, tu avais été invité à l'antenne et donc à une question du journaliste qui te posait de savoir quel était ton avenir, tu avais dit il faut pas fermer aucune porte et rester à l'écoute de tout ce qui se fait. T'en es toujours là?
Ouais, tout à fait. Effectivement, aujourd'hui, j'ai de la chance du fait de mon travail et puis de la moto qu'on m'a fournie, l'équipe autour de moi, à pouvoir performer en endurance et faire partie du groupe des pilotes qui sont aux avant-postes. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de peut-être aller dans d'autres équipes, dans des bonnes équipes. Ma priorité reste effectivement de perdurer au sein de Suzuki, puisque je me sens chez moi là-bas. C'est une bonne famille, je m'entends bien avec tous les membres de l'équipe et tous les gens de chez Suzuki. Vraiment, ma priorité, c'est de continuer ça. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire ensemble, avec des courses à gagner, des titres à gagner. Et donc, c'est vraiment l'objectif principal pour moi de continuer avec eux. Maintenant, si l'aventure ne continue pas de la même manière, je dois avoir des plans à côté, donc je suis ouvert à des discussions. J'ai quelques propositions dans d'autres équipes et donc ça sera étudié en fonction de l'avenir de Suzuki.
D'ailleurs, je vais être assez taquin, mais donc tu gagnes ton premier titre avec le CERT en 2020. Du coup, d'ailleurs, tu te relances avec le CERT pour faire le doublé, ce qui était un challenge sportif très intéressant parce que la concurrence est quand même rude. Vous parvenez à gagner ce deuxième titre, vous repartez pour essayer de faire le troisième. Malheureusement, la dernière course, ça se passe mal et ça n'est pas le cas. Est-ce qu'au final, d'aller dans une autre équipe et d'être champion du monde de WC avec une autre équipe, ça serait aussi un autre challenge sportif qui pourrait être très intéressant pour toi?
C'est sûr que la vie est faite de challenges et ça pourrait faire partie de mes challenges futurs, d'apporter mon expérience et tout ce que je peux apporter à une équipe pour aussi les aider et puis être champion du monde avec une autre équipe. Je pense que c'est des choses qui pourraient se faire dans le futur. Maintenant, pour l'année prochaine, je sais pas encore, mais ça peut être un challenge. Mais comme je disais, ma priorité reste de rester avec Suzuki, puisque comme on dit, jamais 203. Et vu que j'ai pas eu le troisième cette année, j'aimerais en avoir un troisième avant de faire autre chose.
D'ailleurs, par rapport à 2023, est-ce qu'on a déjà une vision sur le calendrier? Est-ce qu'il va être modifié l'an prochain?
Normalement, le calendrier devrait rester pareil, c'est-à-dire ça devrait faire Le Mans, Spa, Suzuka et le Bodor, et peut-être une cinquième manche. Pour l'instant, on attend un peu les réponses de l'organisateur.
En tout cas, ce qui est cool, c'est que tout ce qui est Covid-19, épreuve annulée ou épreuve qui s'annule, et on ne sait pas trop s'il va y avoir une épreuve de remplacement, tout ça, c'est derrière nous.
On ne sait pas, on verra. on ne sait jamais de quoi demain est fait. Hein.
C'est vrai. C'est vrai que je suis un peu trop optimiste sur ce coup-là, peut-être.
Ouais, non, vaut mieux, voir le pire et espérer le meilleur.
Est-ce que ça implique pour l'année 2023 que le budget qui sera alloué au développement et aux performances de l'équipe va être revu à l'aise?
Non, pas du tout. Ça a absolument rien à voir. Comme je disais, c'était uniquement le budget de Suzuki Compétition qui est une partie qui est là-bas. Maintenant, il y a différents budgets aléatoires différents qui de chez Suzuki ou des partenaires qui seront amenés, donc ça fonctionnera différemment, mais les budgets sont si tout se fait seront les mêmes, et donc ça changera absolument rien, puisque le développement des motos, des pièces, contrairement au MotoGP qui se fait tout chez Suzuki, nous tout se fait à 100% chez Yoshimura et avec le CERT. Donc techniquement, ça ne changera absolument rien. Et niveau finance, c'est que ça viendra de différents endroits. Ça fonctionnera un peu différemment, mais dans l'ensemble, ça c'est supposé rester pareil.
Donc ça, c'est un point plutôt positif, ça.
Tout à fait.
J'aimerais te poser une question sur toi personnellement, Greg. Donc tu es de 88, donc si je compte bien, l'an prochain, tu auras 35 ans au mois d'août. Combien de temps tu te vois encore pilote en EWC? Est-ce que c'est déjà quelque chose à laquelle tu as réfléchi ou au final pas du tout? Pour l'instant, on est vraiment focus sur les challenges sportifs qui sont devant toi.
Non, bien sûr, faut toujours penser à l'avenir, toujours penser à la suite. Donc bien sûr, j'y réfléchis. Je sais que le temps passe et que effectivement, le temps passe et puis bien sûr je prends de l'âge, mais mon coéquipier Sylvain Gattoli à 40 ans est toujours performant. Vincent Philippe qui avait 42 ans était encore performant. Et maintenant, moi, mon objectif principal, c'est de rester Tant que je suis performant, tant que j'arrive à faire des résultats et être bien physiquement, mentalement sur la moto, je continuerai. Donc pour l'instant tout se passe bien, je suis en pleine carrière, j'ai aucune raison d'arrêter. Maintenant ça peut durer un an comme 5, 6, 7 ans, je sais pas, mais en tout cas tant que je me sens bien de tous les côtés, je continuerai à faire mon sport que j'aime.
Oui, puis lorsqu'on l'envoie sur les 8 heures de Suzuka, il y avait un pilote japonais qui, dont c'était la dernière course de sa carrière, il me semble qu'il avait pas loin de 50 ans ou même 51 ans, donc quand on voit ça, on se dit que t'as encore de belles années devant toi.
Tout à fait, c'est ça.
Je vois que ton circuit préféré, c'est Brands Hatch. C'est où et pourquoi c'est ton circuit préféré?
C'est en Angleterre, ça.
En Angleterre, ouais, c'est un circuit qui est très vallonné, rapide, où il y a des virages aveugles et faut un gros cœur pour rouler là-bas. Et c'est un circuit qui était sympa quand je roulais en championnat d'Europe, en championnat du monde en vitesse. C'est un circuit que j'avais apprécié. Donc, quand on m'avait dit circuit préféré, j'ai marqué celui-là. Mais après, chaque circuit a sa spécificité et j'aime quasiment tous les circuits du monde en fait finalement.
Et est-ce qu'au contraire il y a un circuit que tu... Alors je sais pas si le mot déteste c'est le mot qui convient, mais est-ce qu'il y a un circuit en tout cas qui te plaît pas trop?
Non, pas forcément, non, je les aime tous.
Ah bah c'est plutôt bien alors quand on met les pilotes.
C'est ça, exactement. Comme on m'a toujours dit, les circuits c'est filé du virage à droite, des virages à gauche et des lignes droites. Donc c'est tous les mêmes.
Oui, et puis j'ajouterais que ça commence où ça se termine ou ça commence.
Exactement,
on tourne avec une pit lane.
C'est ça, on tourne en rond. Quelle idée de tourner en rond pendant tout ce temps?
Honnêtement, je me suis posé la question parce que je vois de plus en plus de streamers qui en ce moment jouent à F1 Manager et c'est vrai que quand ils avancent rapide, on voit des voitures qui tournent en rond pendant 3 heures et c'est vrai que je me demande mais pourquoi finalement tourner en rond c'est si intéressant ça? Et au final, c'est vrai quand on se planche dans votre championnat d'endurance, on se rend compte que c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein d'enjeux à toutes les échelles. Il y a des histoires humaines, que ce soit pour vous les teams officiels ou pour les teams amateurs qui finalement sont là par passion. C'est vraiment hyper intéressant tout ça.
Ouais, non, tout à fait. Après, c'est comme tous les sports. Quand on fait du foot, on court après un ballon, on le met dans un but. Donc chaque sport, oui. En fait, quand on y pense, c'est particulier. Hein. On tourne en rond, on court après un ballon, on tape des balles de golf pour aller mettre dans un trou. Enfin, tous les sports sont particuliers, mais finalement, il y a l'enjeu, il y a des histoires à raconter et c'est la passion de chacun. Quoi.
Est-ce qu'aujourd'hui, là, au niveau de ta carrière, t'es là où tu te projetais quand t'as commencé?
Ouais, je me suis pas vraiment projeté quand j'étais plus jeune. Je sais que je voulais être performer, être bon, et si je pouvais gagner ma vie pendant l'ensemble de ma passion, je pense que c'est le rêve de tous, et c'était mon objectif, et donc aujourd'hui j'ai été guidé dans l'endurance. C'était pas forcément une prédilection d'aller en endurance, mais aujourd'hui c'est un domaine qui me plaît, dans lequel j'arrive à performer et à gagner ma vie, et puis tout ça en faisant ma passion, donc aujourd'hui c'est un vrai travail, et je suis content d'en arriver à aujourd'hui. Et je vais essayer d'y rester le plus longtemps possible, tant que j'ai le sourire et que j'ai la motivation pour le faire.
Ouais, c'est un privilège de vivre de sa passion, c'est clair.
Tout à fait, c'est un privilège, mais ça reste aussi, faut pas oublier, pour beaucoup c'est un rêve, mais il y a énormément de contraintes et de choses qui sont moins agréables à faire pendant qu'on fait une carrière de sportif. On voit toujours le bon côté, c'est-à-dire une course, de devoir monter sur la moto et faire de la moto, et ça c'est peut-être le rêve de chacun de se faire ça un dimanche, mais finalement quand ça devient son métier, c'est pas que ça, ça représente beaucoup de sacrifices et beaucoup de préparation en amont, beaucoup de stress et de d'enjeux et de choses dans la vie qu'on met de côté. Donc c'est ma passion, et je, comme je dis, j'en suis très très fier et très content de pouvoir en vivre. Maintenant il y a certains métiers où on gagne plus d'argent et il y a beaucoup moins de stress.
Tu récoltes aussi les fruits de ton travail, dans le sens où t'as aussi beaucoup roulé en stock en endurance, et c'est vrai qu'au final ta trajectoire elle a été linéaire, t'as passé les étapes les unes après les autres, et te retrouver au CERT double champion du monde et puis encore deuxième cette année, c'est aussi le fruit d'un travail qui dure depuis très longtemps.
Ouais, comme on dit, doucement mais sûrement. Moi, j'ai réussi à faire ma carrière un peu tout seul, à développer ma carrière. J'ai pas de manager, j'ai personne qui s'occupe de tous mes partenaires ou même de mes contrats avec mes équipes. Donc, ça représente du travail. Et quand on est tout seul à tout gérer, ça se fait petit à petit. Et il faut avoir les bons contacts, les bonnes façons de faire, la bonne façon de communiquer, de travailler, mais aussi être performant sur la piste, comprendre les choses, prévoir ses entraînements, et tout ça mis bout à bout fait que les choses elles payent petit à petit. Et effectivement, à force de travailler, de persévérer, de détermination et d'envie, j'ai réussi au fur et à mesure d'aller où je voulais aller, c'est-à-dire dans l'équipe du CERT et gagner des courses et ensuite des titres. chose acquise. Maintenant, j'ai toujours faim de victoire et de titres et de performances. Donc je suis loin d'être arrêté.
Quel est ton rapport du coup avec la Charente? On sait qu'il y a depuis très longtemps que tu aimes le département, notamment le nord du département. Est-ce que du coup, c'est aussi pour toi une fierté de représenter le département de la Charente, qui est pas le plus connu en France, on va dire, mais où on vit très bien à l'international? Enfin, comment tu gères un peu tout ça?
Ouais, c'est rigolo d'être du fin fond de la campagne, comme on dit, en Charente. Tout le monde dit y a pas grand chose ici, mais je pense que chaque coin de la France a ses avantages et ses inconvénients. Moi, en tout cas, je suis né en Angleterre. Mes parents sont venus ici quand j'avais 3 ans. Et en fait, j'ai toujours habité ici en Charente, où je me sens bien. Voilà, j'aime la campagne. J'aime être avec mes amis d'enfance, mes amis qui sont tous ici. Donc, c'est important pour moi, entre les courses, de pouvoir revenir, entre tous mes déplacements, de revenir ici, me ressourcer, être bien dans ma maison chez moi. Et c'est une belle région, finalement on a tout ce qu'il faut. Après, bah, comme je dis, l'herbe est toujours plus verte chez les voisins. C'est comme changer d'équipe, on pense toujours qu'on est mieux ailleurs, mais finalement on se rend compte qu'on est quand même bien chez soi. Et aujourd'hui, moi je suis content de vivre ici, de représenter la Charente partout où je vais. Et puis comme quoi, en fait, peu importe d'où on vient, on a chacun son petit bout de chemin à faire, et c'est ce qui compte.
Parfait, Greg. Écoute, on te remercie beaucoup de nous accorder du temps dont on sait qu'il est précieux pour toi. Donc, c'est chaque fois un plaisir et un honneur, je le répète, de pouvoir te recevoir. On va te souhaiter donc le meilleur pour les 2 mois, 3 mois à venir, donc où en gros va se décider l'orientation de futur de ta carrière. On te souhaite longue, et en tout cas, encore merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup, bonne journée à vous.
Au revoir, Greg, à bientôt.
Salut, Greg.
Salut.
Attitude. Ah, attitude. Tous les tubes des années 80 à aujourd'hui.